Pardonner est-il une œuvre faisable et humaine? Nous allons regarder à Jésus. Regardons au modèle. Donc, nous allons voir d'abord l'appel de Dieu pour le pardon. Matthieu 26. L'appel suprême. Matthieu 26. Verset 50. 26, verset 50 à 56. Jésus lui dit, « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Et voici, un de ceux qui était avec Jésus, lui tendit la main et tira son épée, il frappa le serviteur du souverain prêtre. Donc ce que tu es venu pour faire, fais-le. Donc Judas, Jésus n'a aucune hostilité, il a de l'amour pour lui, il sait très bien qu'il a déjà reçu l'argent, il sait très bien qu'il va l'embrasser, fais-le. Il y a une immense non-violence en Jésus. Prenez-le comme modèle, et moi-même aussi. C'est la voie royale. Ensuite, un de ceux qui était avec Jésus tendit la main et tira son épée. Donc Pierre, lui, bondit de rage, il a une épée et il emporte l'oreille d'un certain Malchus, un serviteur du grand prêtre. Jésus lui dit, remets ton épée à sa place car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Donc, il y a une puissance éternelle en Christ, une puissance qu'on... Si vous croyez que Jésus est petit, vous vous trompez largement. Faites attention à votre relation avec Jésus. Quand Jésus est humble, effacé, c'est pas pour ça qu'il est à notre niveau. Demi-puissant, simplement prophète, etc. Il est Dieu. Alors, verset 54, « Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi ?» La force de Christ est de se reposer sur les Écritures. La force de Christ est l'accomplissement des Écritures. Est-ce que vous avez cette conviction dans vos vies ? Est-ce que vous avez cette conviction ? Est-ce que vous vivez en pratique, en lisant la parole de Dieu, en sachant que les Écritures s'accomplissent ? Et que la volonté de Dieu y est exprimée. Si la parole de Dieu est une bagatelle ou une semi-vérité pour vous, vous êtes en danger, je vous le dis. Dans les temps qui viennent, vous êtes en danger. Les églises se vident avec les coronavirus, il y a des églises qui ne rouvrent pas, et quand ça sera, tout ce truc qui peut durer des années finira, où seront-elles ces églises, où seront ces chrétiens ? Qui ne vont céder qu'à une chose, la peur. La peur de perdre la vie physique, mais la vie spirituelle, ça semble être secondaire. Alors, Jésus se fonde sur les Écritures. Rappelez-vous, dans Matthieu chapitre 4, quand Satan vient attaquer Jésus par des tentations suprêmes, chaque fois Jésus répond, il est écrit. Chaque fois, boum. Est-ce que vous pouvez vous assurez de reposer vos journées sur la parole de Dieu? Est-ce que vous pouvez vous assurer? Car Satan tourne autour de vous. Pensez à Job. Job, au chapitre 1 et 2, on voit que Satan a tout fait d'aller tout près de Dieu. Je me suis promené par la terre. J'ai vu Job. J'ai vu ton serviteur. Et Dieu lui répond, as-tu remarqué comment il est intègre, droit et fidèle? Alors Satan demande qu'il y ait des épreuves, il dit c'est pas possible, il fera comme les autres, il lâchera et reniera. C'est par intérêt qu'il est croyant. Et pour finir, toutes les épreuves arrivent une après l'autre, et même sa femme lui dit, meurs donc, maudit ton Dieu. Et donc, à la fin du chapitre 2, Job dit lui-même, non, Dieu ne peut-il me donner la vie et pas me la reprendre, il donne le bien, il permet le mal. Ce qui est permis par Dieu dans nos vies n'est pas forcément une expression de manque d'amour de Dieu à notre égard. Ce qui est permis pour les chrétiens au Pakistan, là, pour le moment, c'est dures épreuves qu'ils ont, et que beaucoup d'autres chrétiens connaissent. Si vous veniez, si je retourne encore une fois au Bénin, et que quelqu'un encourage à venir avec moi, ça serait bien, parce que j'ai pris de l'âge, mais pratiquement, ça se prépare dans la prière et le jeûne. Hein. Mais ce qu'il y a, c'est sûr, vous auriez le cœur touché, hein, par ce qu'on voit. Il y a de tout. Hein. Alors, les Écritures, c'est la volonté de Dieu exprimée dans les Écritures, c'est le centre de la vie de Jésus. Normalement, c'est le centre de la vie des églises évangéliques. Comment donc s'accomplir les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi ? Et ce moment, Jésus dit à la foule, « Vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. » Donc ils étaient doux, gentils, etc. Tout d'un coup, la rage leur a pris. Et ça, c'est typique de l'être humain. J'ai fait souvent l'expérience de gens comme ça, qui étaient des amis, des copains, et puis qui devenaient d'horribles ennemis. Attendez-vous à des choses pareilles. Hein? Si réellement vous êtes avec le Seigneur, l'ennemi met des pensées horribles chez d'autres. Hein? Et l'épreuve est permise, comme pour Job, comme pour Jésus. Êtes-vous prêt à encaisser ces épreuves? Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis, alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent leur fuite. Donc il y avait un paquet de disciples. Allez, hop, comme des lapins. Aujourd'hui, en Europe, devant les épreuves qui commencent, que va-t-il rester? Prenons Luc 23, verset 33. Luc. Et comme il y a toujours des âmes qui doivent connaître le salut, eh bien, le petit nombre, le petit reste, les élus doivent toujours témoigner du Seigneur et prier, jeûner et considérer les hommes perdus comme l'objet de l'amour de Dieu. Ils doivent toujours être au service de Dieu avec les Écritures. Luc 23, verset 33. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Accomplissement du psaume 22. Hein. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Il disait, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Dans les épreuves là, du Pakistan, les autres là, qui ne sont pas chrétiens, peuvent se dire, regardez, on va voir si leur Jésus vient les sauver. On va voir si leur Dieu est si bon et les aime tant que ça. Hein? Et ici, quelqu'un qui est vraiment fidèle au Seigneur, il y en a, même s'ils vous font un bon bonjour. Et qui vous cause de la pluie du beau temps. Ils peuvent être comme ça, ricaner par derrière et entretenir ce jeu de l'hostilité. Psaume 1, ne t'assieds pas au banc des moqueurs et des railleurs. Mais parfois, si vous agissez charnellement dans votre vie, vous êtes tellement naïf que vous les prenez pour des amis. Et il faut faire attention. Vous savez, à la fin du chapitre 1, Jésus disait, il avait fait des miracles. Et ils étaient tous alentour de lui. Mais ils ne se fiaient point dans l'homme, car ils connaissaient ce qu'il y avait dans le cœur de l'homme. Nous, chrétiens, nous ne sommes pas appelés à détester l'humain et à prôner la méfiance destructrice. Nous devons être prudents, comme Jésus a dit, prudents, comme le serpent, hein, parfois un peu rusé, c'est-à-dire sachant bien esquiver l'ennemi de... Doux comme la colombe. Eh bien, ce Jésus sur la croix, doux comme la colombe, notre modèle, notre Seigneur. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ces événements, tirant au sort. Et tout le monde rigole. Qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Les soldats aussi se moquaient. Naturellement, on voit bien plus tard que le centurion va dire, c'est le Fils de Dieu. S'approchant du présentant du vinaigre, il disait, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y a au-dessus de lui cette inscription, celui-ci est le roi des Juifs. Ce Jésus, sur la croix, roi des Juifs, sera en Israël, à Jérusalem. Roi des Juifs. Hein. Incontournable, cette parole. Elle sera accomplie. Hein. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même, sauve-nous. Mais l'autre le reprenait. Mais si vous allez voir dans les autres évangiles, Matthieu et Marc, vous voyez que de 9h du matin à midi, ils insultent tous les deux. C'est à midi, quand les nuages sombres se mettent, la terre tremble, on ne voit plus le soleil, il fait froid, il y a quelque chose qui se passe d'anormal, il y en a un qui change, et qui dit à l'autre, mais arrête, s'il te plaît. L'autre le reprenait, disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. La bonté du Seigneur pour un pécheur, la bonté, il est venu par amour des pécheurs, des brebis, même les plus dures. Alors, regardons. Dans Ésaïe chapitre 2. Ésaïe chapitre 2. Vous savez bien que j'aime bien d'aller dans l'Ancien et le Nouveau Testament pour montrer que les jonctions sont nombreuses et qu'il n'y a pas d'opposition à faire entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Tout quiconque est né dans un milieu catholique n'a pas d'intérêt a priori et de plaisir à aller lire l'Ancien Testament. Au minimum, c'est l'Évangile, au minimum. Hein. Mais il faut corriger ce côté culturel néfaste. Il y a dans la parole de Dieu, de l'Ancien Testament comme du Nouveau Testament, une expression de la volonté de Dieu. Éphésiens chapitre 2, verset 1.
Ésaïe.
Excusez-moi. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoth, sur Juda et Jérusalem. Elle rit, c'est bien, comme Sarah. Avec Abraham, il se faisait vieux. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Allez lire Ésaïe 25, versets 6 à 9. Vous avez l'explication. Des peuples s'y rendront en foule et diront, venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. Qu'est-ce que nous voyons? C'est que le Christ sera le juge des nations. Donc, son action s'étend à toutes les nations. Son jugement s'étend à toutes les nations. Son salut s'étend à toutes les nations. Son sacrifice de la croix s'étend à toutes les nations. Le don du Saint-Esprit s'étend à toutes les nations. Et il sera l'arbitre d'un grand nombre de peuples. Et puis après, vous avez, bien sûr, ça pour les écologistes, ça doit être formidable, de leurs glaives, ils forgeront des hoyaux, de leurs lances des serpes, donc tous les tanks, les mitrailleuses, tout sera fondu, on cultivera la terre avec des houes, des pioches, et on finira d'aller prendre la nourriture chez les autres. Il faudra faire comme ça, chacun devra humblement accepter des limites, pour que les autres aient aussi à manger. Hein? Ça, c'est le royaume de Dieu. On n'apprendra plus la guerre. Maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Donc le juge de toutes les nations, l'arbitre de toutes les nations, c'est formidable de voir que Christ a ce statut et que c'est dans les Écritures et ça s'accomplira autant que son sacrifice à la croix. Il est venu pour accomplir toutes les Écritures. Le croyez-vous? Le croyez-vous? Moi, en tout cas, j'en suis persuadé. Pas de doute. Nous prenons la première aux Thessaloniciens, chapitre 1, verset 10. Première aux Thessaloniciens, chapitre 1, verset 10. Heureusement, nous ne sommes pas nombreux, mais c'est enregistré. Ça peut être utile à bien d'autres, d'autre part. Première aux Thessaloniciens, chapitre 1, verset 10. Bon, on va commencer au verset 9, parce que ça, c'est une phrase hein, en continu. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu, en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Ah ! Jésus nous délivre de la colère à venir. Il est le juge des nations. Mais il y a une colère à venir. Et ce n'est pas de la rigolade. Il y a une colère à venir. Mais Jésus nous délivre la colère à venir. C'est-à-dire, il faut être en Christ pour ne pas la subir. Romains, chapitre 2, verset 16. Romains chapitre 2, verset 16. On utilisait fort la peur, hein. Je ne veux pas utiliser la peur, simplement les Écritures, hein. C'est tout. Et je ne vous mettrai pas une petite soutane ou une grande soutane tout de suite en sortant. Romains chapitre 2, verset 16. C'est ce qui paraîtra au jour, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Vous pouvez lire tout le chapitre 2, hein, évidemment. Je ne peux pas le faire aujourd'hui. Dieu jugera par Jésus-Christ, c'est lui le juge. C'est lui qui aura la mission de juger les actions secrètes des hommes. Alors, vous devez savoir que quand vous êtes tout seul dans votre chambre, dans votre salle de bain, au jardin, n'importe où, le Seigneur vous voit, il vous connaît. Ne jouons pas à ce jeu stupide de croire « il ne me voit qu'au culte » ou quand j'ai étudié la Bible, j'ai prié la Bible. C'est vraiment le prendre pour rien du tout. Actes des apôtres, chapitre 3. C'est une prédication qui durera deux fois. Hein. Je ne peux pas, elle est trop longue. Peut-être trois fois. Actes des apôtres, chapitre 3, verset 18. Verset 18. Dieu accomplit. Je vais commencer au verset 17. Maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance ainsi que vos chefs, en crucifiant Jésus. Hein. Verset 18. Mais Dieu accomplit de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devrait souffrir. Verset 19. Repentez-vous donc, convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. S'ils ne sont pas effacés, la colère à venir est là. S'ils ne sont pas effacés, dans le livre d'accusation, si vous voulez, hein, quand on va au tribunal, vous n'y avez jamais été, on est inculpé de telle et telle chose. Hein, soit parce que quelqu'un a porté plainte, soit parce que vous avez fait quelque chose de grave, la police vous a attrapé, mais le juge, il a tout seul là. L'acte d'accusation. Alors, vous avez un avocat pour vous défendre. Mais il y a un procureur là. Vas-y, Nénès, lui, il défend la loi, l'application de la loi. Et de la colère et de la justice à venir. Présente plutôt. Et donc, repentez-vous donc, convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ, qui nous a été destiné. Pourquoi ? Que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Donc, tout l'Ancien Testament a parlé d'un rétablissement de toutes choses, où il n'y aura plus de péché, et où il y aura les sauvés, les élus avec Dieu, et ceux qui ont auront voulu bâcler l'appel de Dieu, ne pas y répondre, ils sont sous la colère, ils ne sont pas dans le royaume. Pierre a prêché ça. Pierre a prêché cela. Regardons le chapitre 4, verset 11. Je commence au verset 10. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 10. « Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. » Donc il y avait un paralytique devant le temple, il a été guéri, au nom de Jésus. « Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez, qui est devenue la principale de l'angle. Vous l'avez rejetée, vous êtes des bâtisseurs, les responsables spirituels. » Mais maintenant, Dieu, en le ressuscitant, montrait qu'il était la pierre angulaire, pas vous. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Alors, évidemment, le peuple va trembler, le peuple, il y a énormément de gens qui vont se convertir. Prenons Actes chapitre 10. C'est Actes 4, 12. Et je passe à Actes des Apôtres chapitre 10, verset 34. Est-ce que le pardon est possible? Oui, il est possible. Évidemment, parce que Dieu lui-même veut pardonner. Dieu veut faire miséricorde. Et que j'ai envoyé son fils Jésus pour pardonner. Mais celui qui refuse le pardon, qui refuse de se reconnaître pécheur, la colère est là. La colère à venir est là. C'est tout simple. Vous savez, un enfant dans une famille, les parents peuvent être patients comme ils veulent, mais il y en a qui les poussent à bout. Et pour finir, ils ramassent quelque chose quand même. Une punition. Va au lit sans coucher, ou tu vas voir. Si ça continue, je vais t'en mettre une. Hein? Parce qu'il y a des gosses qui vous poussent à bout. Il y en a des autres, ils sont, oulala, ça va tourner au roussi. Je me calme, je me glisse. Mais il y en a toujours un dans la bande, dans une famille qui fait l'andouille. Et c'est la même chose avec Dieu. Hein? Alors, acte 10, verset 34. Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. Oui, on est tous ses enfants, a priori. Mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Ah ah, celui qui le craint et qui pratique la justice, c'est-à-dire la sainteté, lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. La paix à Israël, comment? Pas simplement par les miracles, les prédications. Par son sacrifice à la croix. Regardez, le brigand a reçu la paix de Dieu, il est pardonné. C'est la paix du pardon. Alors, il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu est avec lui, était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Le mot en grec, c'est zulon, hein, qu'on retrouve pour l'arbre de vie et pour le bois, là, avec le serpent des reins, dans le livre des Nombres, dans le désert. Alors, ils l'ont tué. Pourquoi? Pourquoi, les amis? Finalement, quel est le but du sacrifice de Christ? Dieu, verset 40, l'a ressuscité le troisième jour. Il a permis qu'il apparût non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que celui qui a été établi par Dieu juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Boum! Et bien sûr, le Saint-Esprit tombe sur la foule parce qu'ils acceptent. Vous avez eu ces versets-là? aujourd'hui, c'est capital, capital. Il y a des gens qui savent très bien que ça ne tourne plus rond. Ils ont besoin de ces versets. Le pardon de Dieu est à leur portée. À leur portée. Il faut accepter Jésus comme le juge de leur conscience, qui donne la vie. Il ne les condamne pas. Il condamne à mort le péché, à la croix. Alors, je vous ai dit cela, c'est un bon juge. C'est un juge dans la bonté. C'est un juge dans la justice, dans la vérité. Romains, chapitre 2, verset 4. Au verset 4, Paul dit qu'il ne faut juger personne. Nous ne sommes pas là pour juger d'autres personnes. Mais, si nous les jugeons, nous faisons un acte contraire à la volonté de Dieu. Nous exprimons du mépris pour ce que Dieu peut faire pour cette personne. Méprises-tu les richesses de sa bonté, donc de Dieu et de Christ, de sa patience, de sa longanimité? Ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à repentance? Par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Le juste jugement de Dieu. Pour être jugé favorable, il faut perdre tout esprit de condamnation sur les autres. La seule capacité de juger et le seul droit de juger, c'est Christ qui l'a. Continuons dans cette réflexion. Jésus est le bon juge qui est patient. Et regardons bien dans le psaume 103. Nous sommes souvent tiraillés quand nous souffrons. Nous sommes tiraillés quand nous souffrons, ou même quand nous avons été vexés, ou que nous imaginons que nous avons été blessés, vexés. Parce que souvent, on glisse sur des peaux de banane. Pour des détails, on prend la mouche, on s'empoisonne le cœur et on tombe dans la rancune et on en veut à quelqu'un. Alors que c'était un petit rien du tout. Alors, regardez bien, ça c'est un cliché formidable, le psaume 103. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse et qui te couronne de bonté et de miséricorde. Mettre une couronne sur un être humain de bonté et de miséricorde, c'est une profonde transformation. Déjà qu'on attendait dans l'Ancien Testament. Avoir de la part de Dieu un pardon total pour toutes les iniquités. Et bien sûr, les iniquités qu'on entretient engendrent des maladies. Vous voyez? Qui guérit toutes tes maladies. Alors, je prends le verset 8. L'Éternel est miséricordieux, compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse et ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Est-ce que c'était pas ça à la croix, avec le brigand? C'est épatant. L'incarnation de Christ, elle était annoncée. Il fallait que ça soit concret, concret, pour que les hommes le comprennent. Concret, incarné. Psaume 30, verset 5. Psaume 30, verset 5. Il faudra bientôt... Alors, psaume 30, verset 5. Chante, je pense qu'il faut faire attention aussi à l'action de grâce, à la louange. Hein. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez, célébrez par vos louanges sa sainteté. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs, le matin l'allégresse. Vous avez vu ce qui est dit là? Sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. David a une profonde connaissance de la sainteté, la sévérité de Dieu, mais aussi de sa miséricorde. Hein? Et nous, chrétiens. Psaume 32. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché pardonné. Heureux l'homme à qui, ou la femme, à qui l'homme n'impute pas l'iniquité, dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Alors au verset 5, je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité, j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Vous imaginez, nous sommes dans l'Ancien Testament. C'est réellement déjà la préfiguration du temps de la grâce, le temps de la grâce en Christ, pour aujourd'hui. Ésaïe, chapitre 54, verset 8. Je vais commencer au verset 7. Quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face. Mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur l'Éternel. Vous voyez ce qui est dit là? C'est formidable. Verset 10. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, hein, c'est un peu ce qui se passe pour le moment. Les pays, toutes les puissances sont en train de vaciller. Hein. Mon amour ne s'éloignera pas de toi. Mon alliance de paix ne chancellera pas, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Donc, nous avons vraiment des versets, il y en a plein d'autres, où Dieu est un bon juge, un patient, miséricordieux, et qui est juste. Il n'inventera pas des fausses accusations sur nous. Rien. Mais rien du tout. Hein? Alors, c'est un juge contemporain. C'est aujourd'hui que nous sommes sous son jugement. Aujourd'hui. C'est pas pour demain, après la mort, etc. Comme certes, un grand nombre de gens l'imaginent. Beaucoup de gens, moi j'ai connu ça dans le catholicisme, mais d'autres, dans d'autres religions, ça, c'est après. Non! Maintenant, Dieu nous voit et il juge nos actes et nos états d'âme. Luc, Marc chapitre 2, verset 10. Vous savez que pour Dieu, il n'y a ni temps ni espace, qu'un jour est comme 1000 ans, 1000 ans est comme un jour. Donc, ne prenons pas, c'est après. Non, c'est maintenant. Marc chapitre 2, verset 10. Quand le paralytique descend à travers le toit et que Jésus le guérit, verset 10, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit, va dans ta maison. Sur la terre. Matthieu 9, versets 1 à 8. Matthieu 9, versets 1 à 8. Donc, je suis passé du Dieu éternel, créateur, qui nous connaît en tout temps, en toutes circonstances, à Christ, qui est Dieu, Dieu incarné, et qui, aujourd'hui, nous voit, considère nos faits et gestes, nos états d'âme, nos pensées, et qui est là, comme un juge, si je veux bien, passer devant son jugement aujourd'hui, il n'y en a plus après. C'est un juge contemporain, actuel. Ce n'est pas un juge qui se dissipe dans les années, les mois qui viennent. Il est vivant au siècle des siècles. Matthieu 9, versets 1 à 8. C'est le même texte que dans Marc, que nous venons de lire. Et au chapitre 9, verset 6, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans la maison. Mais il y a quelque chose qui est ajouté ici et qui est remarquable, sans doute qui est Non, c'est la parole de Dieu, hein. Il n'est pas ajouté par un homme. Il se leva, le paralytique, et s'en alla dans sa maison. Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte, elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Quel pouvoir ont eu ces hommes? Vous regardez au verset 2, la foi. La foi de faire confiance à Christ, de descendre cet homme-là devant le Christ, le Fils de Dieu, une foi totale. Eh bien, cette foi est un pouvoir. Elle a tourné la clinche de la porte, elle a ouvert la vie à cet homme qui descendait. Et même la vie physique et la vie éternelle. La foi est un pouvoir, elle est une puissance. Romains chapitre 1, verset 16, le juste vit par la foi. C'est le pouvoir, c'est la vie. La foi est un pouvoir, le pouvoir de vie, la vie éternelle. En nous. Jean chapitre 5. Jean chapitre 5, verset 23. Je commence au verset 21. « Comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. » Comprenez bien ?« Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé, donc c'est Jésus-là qui parle, a la vie éternelle. » C'est pas mis aura et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Vous voyez que le jugement, le passage de la vie de mort à la vie éternelle est au moment où on accepte Christ et sa parole, et qu'on se donne à lui. Quel cadeau, quel cadeau qu'à l'école, il y a ça 2-3 semaines, un enfant a reçu ce jugement de Dieu dans son cœur. Il a demandé pardon, il a voulu donner sa vie à Jésus. Quel cadeau que Dieu a fait à la maman quelques jours plus tard. Ce sont les cadeaux qui sont dans ce texte. C'est le juge qui a fait grâce. C'est le juge qui a donné au bénéfice du sang de sa croix, qui a donné la vie éternelle. Jacques, chapitre 5, verset 9. Jacques, chapitre 5, verset 9. Je commence au verset 8. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car le retour du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la parole de la patience de Job. Vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Cette exhortation que le frère de Jésus a donnée à la première assemblée est essentielle. C'est essentiel. C'est un juge qui est bon, c'est un juge qui est divin, c'est un juge qui est contemporain, d'aujourd'hui il est vivant. C'est un juge qui est réaliste. Vous savez bien, dans Jean chapitre 2, versets 24 à 25, Jésus ne se fiait plus dans l'homme car il savait ce qu'il y avait dans le cœur de l'homme. C'est un juge. Il ne va pas se laisser avoir. Parce qu'il y en a des mensonges dans les séances de tribunaux. Hein? Il y en a de la part des avocats, de ceux qui viennent jurer. Là, je jure de dire toute la vérité. Quand ce n'est pas le juge lui-même qui parfois est dans le péché. Mais ici, c'est un juste juge, divin et saint. Et donc, c'est un juge extrêmement saint et juste qui nous accorde le vrai jugement. Luc 11, 13. Et j'en termine là. Luc 11, 13. Il parle à ses disciples. Pourquoi pas à nous, les amis? Luc 11, 13. Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Non seulement le pardon, mais le Saint-Esprit. Dieu dans nos vies, Dieu dans nos cœurs. Avoir la dignité d'être habité de Dieu. Avoir une nouvelle dignité. Avant, j'étais habité du péché et du copain, d'en dessous. Et aujourd'hui, parce que Jésus m'a jugé, a condamné mon péché à la croix, il m'a donné la vie éternelle quand j'ai demandé pardon, j'ai reçu Dieu dans ma maison, corps, âme et esprit, pour toujours. Voilà, aujourd'hui, j'ai voulu parler, pardonner est-il une œuvre faisable humaine? Non, c'est une œuvre divine. Voilà la réponse. Elle est en Christ, elle est à notre portée. La fois prochaine, voici ce que je voudrais aborder. Que dit la parole pour nous? Que faire? Comment être? Devons-nous pardonner? Pourquoi? Comment? Dans quelles circonstances? Et tout ça, c'est de nombreux textes que nous aborderons, évidemment, dimanche prochain. Pour ceux qui sont dans la semaine, dans les messages, bien sûr, je vais déjà les donner, hein, qui sont dans les messages. Du lundi, du mercredi et du vendredi à 18h. Que Dieu bénisse et Dieu nous accorde ce trésor venu du ciel. La paix avec Dieu. La porte ouverte pour toujours. Être en présence de Dieu à tout instant, jour et nuit. Prenez-y plaisir, les amis. Rendez-vous compte du cadeau que vous avez reçu. Appréciez-le. Dites à Jésus, dites à Dieu, qu'est-ce que je suis bien avec toi? Qu'est-ce que j'aime bien être avec toi? Qu'est-ce que ta parole me fait du bien? Mais dites-lui les bonnes choses. Quand une maman est à table, qu'elle l'a fait à manger, qu'elle s'est cassée à nénette pendant 3 heures, et qu'on arrive tous, on avale tout en 5 minutes ou 10 minutes, et encore il y a des pas contents qui vont dans le frigo chercher autre chose. Et qu'on ne dit pas merci à la maman. C'est quoi ça? En général, on fait la même chose avec Dieu, même si on se dit chrétien. Si on fait la même chose avec le Père et la Mère, avec ceux qui nous rendent service dans la vie concrète, nous chrétiens, si on fait ça, on est certainement comme ça avec Dieu. Il faut changer d'attitude. La reconnaissance, la gratitude, l'adoration sont les attributs des vrais chrétiens. On reconnaît à cela les vrais chrétiens, en toutes circonstances. Persécution, tribulation ou bien-être. Amen.